Une autre personne qui a connu de très près Jacques Ménard, c'est l'ancien président du Fonds de solidarité de la FTQ, ancien ministre des Finances également dans le gouvernement québécois, nul autre que M. Raymond Bachand, qui est maintenant consultant pour une grosse firme d'avocats ici à Montréal. M. Bachand, qu'on retrouve au moment où il est en vacances. M. Bachand, bonsoir.
Bonsoir, M. Langlois-Mario.
Mes condoléances dans un premier temps, parce que je sais, pour l'avoir appris tout simplement, que vous étiez des gens très proches, là. Et c'est pas seulement à travers le dossier des expos, je pense, c'est plusieurs décennies d'amitié familiale et personnelle.
Mais ça fait 50 ans qu'on est amis, Jacques et moi. Nos femmes aussi, les couples de famille, c'est le parrain de ma fille. On s'est connus, d'ailleurs, 50 ans, c'est pas dans le sport, mais... dans un premier sauvetage, en quelque sens, c'est la création d'Oxfam Québec, où avec Yvon Deschamps, puis Pierre-Marc Johnson, puis moi, puis quelques autres aussi, le monde était allé à Toronto, et les gens de Toronto avaient les larmes aux yeux, voté la souveraineté d'Oxfam Québec pour se détacher du Canada et d'être attaché directement à Oxfam International. Et Jacques était comme notre caution financière parce qu'il était sur le conseil, il avait accepté d'être sur le premier conseil, etc. Et on a fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Je ne sais jamais trop Richelieu, c'est lui qui a amené, c'est un grand leader et du côté économique, quoi, on a amené Métro Public comme compagnie, il fait toutes nos acquisitions. Mais dans tout le domaine, parce qu'il est impliqué, bien sûr, dans l'économie, dans tout ce que vous pouvez penser, mais aussi dans la communauté. Il a présidé la campagne de Sainte-Justine avec Céline Dion, il était sur un trail de l'OSM. La dernière chose récemment, c'est pour Robert Lepage à Québec, son nouveau théâtre. Moi, comme ministre des Finances, je l'avais financé, puis lui... Il a pris la campagne de financement parce qu'il avait des capitaux privés. Alors, dans tous les domaines, il était toujours là pour aider. C'est un rassembleur. Puis évidemment, dans le sport aussi, puisqu'on était une émission de sport, alors on va parler de ça.
Bien sûr, il a rassemblé des actionnaires pour le premier sauvetage des expos. On s'en rappelle quand vous avez racheté ça de M. Bronfman par la suite. J'ai pu m'en rendre compte moi-même à travers bien des entrevues que j'ai réalisées avec lui. Puis la toute dernière qui remonte à 2017, la conclusion définitive du dossier des expos avec M. Loria, Samsung, le déménagement de l'équipe, c'est quelque chose qui vous avez été à même de le constater, j'imagine, qui lui est resté sur le cœur. Hein?
Ah, clairement, parce qu'il avait réussi le premier montage financier là, des expos avec Claude Brochu puis toute la communauté qui était là, le Fonds de solidarité. C'est Claude Blanchet qui était président. Moi, j'ai été après ça président du Fonds. Et ça allait bien. À un moment donné, évidemment, Claude voulait sortir en quelque sorte. Jacques et moi, on avait réussi même à obtenir le terrain, le financement. On avait obtenu l'accord de Lucien Bouchard pour un financement. Au début, il était contre. Après ça, il était pour. Et ramasser... T'sais, on s'était dit, imaginez que vous avez, je sais pas moi, 200 000 piastres d'hypothèque sur votre maison, puis on s'est dit, il faut qu'on ramène ça à zéro, parce que on veut garder Guerrero, on veut garder Pedro Martinez, on veut garder ces joueurs-là, puis les deux prochaines années, on va perdre notre chemise, on va ramener notre dette à zéro, et puis quand le nouveau stade va être construit, on va en équipe gagnante, puis le stade va être plein, puis on va se refaire globalement, puis il avait réussi à ramasser, on s'était dit, pour ça, il fallait ramasser 150 millions, 115 Montréal, 115 Loria. Puis on était rendu à 70 millions, puis d'ailleurs, on avait dû forcer le closing pour qu'il monte son argent. Alors, finalement, le baseball majeur nous a fait faire un premier closing à 25, puis the rest is history. À partir de ce moment-là, Loria avait tous les pouvoirs, et s'est servi des pouvoirs, ben là, les amateurs le savent, il a coupé ses cassiers, il a coupé la diffusion, il a coupé, en tout cas, vous connaissez le reste de l'histoire. Ça a été effectivement... une très grande tristesse pour tous ceux impliqués, mais pour Jacques aussi, parce que c'est un grand amateur, pas juste pour Montréal, mais c'est un amateur de baseball, puis il aimait ça, puis je sais qu'il vous a rencontré déjà en Floride, et puis évidemment, était proche de Philippe Allou, puis que moi j'ai mangé avec Philippe Allou chez Jacques, un dîner mémorable, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi. Il était très, très attaché, puis mais faut dans la vie... Faire attention à ce que je dis, mais je vais me faire poursuivre en hommage par le monsieur, le propriétaire, là, qui s'appelle Laurier. Alors, mettez tous les qualificatifs que vous imaginez dans votre tête, là, c'est ce que je pense de lui.
Et les années n'ont pas atténué le sentiment, et les derniers propos de Jacques Ménard à ce sujet-là remontent à 2017, et ils étaient semblables aux vôtres, quoique je pense qu'il y avait une petite hésitation de moins. Mais donc, c'est resté dans la gorge de tout le monde, ça, parce que je me rappelle, il était venu en studio sabrer le champagne avec nous, là, en pensant que tu sais, qui vendait ça, qui avait trouvé les bons partenaires, puis comme homme d'affaires aguerri qui a réussi pas mal tout ce à quoi il a touché, ça devait, tu sais, on comprend qu'un gars qui est pas habitué de vivre, je sais pas si on peut parler d'un échec, corrigez-moi, M. Bachand, mais c'est pour ça que c'est resté, puis ça a collé dans le système longtemps, puis encore aujourd'hui.
On peut parler d'un échec, puis moi aussi, j'ai sur le cœur un peu, puis tous ceux qui étaient là-dedans, tu sais, Jean Coutu, puis tous les autres. Mais, tu sais, dans la vie, on sait tout avoir avec des beaux parleurs hein, qui ont des belles personnalités, recommandées par le baseball majeur, recommandées par plusieurs personnes à New York et puis tout ça. Alors, regarde, on s'est fait avoir, puis la structure juridique imposée dans une société en commandite, ça fait qu'après ça, tu peux pas, excuser le langage, tu sais, ton PDG dehors, c'est lui qui a le pouvoir. Alors, t'es fait.
Exactement, et on connaît la suite de l'histoire. Dans l'entretien qu'on vient juste de
réaliser... Il y avait, regardons les efforts qu'il a fait la première fois, puis la deuxième fois, il a ramassé 70 millions de cash dans le baseball majeur à ce moment-là. Aujourd'hui, le baseball, économiquement, il y a pas mal plus de chances pour une équipe à Montréal parce que le partage des revenus, la péréquation, le partage des revenus publicitaires est très fort aujourd'hui dans le baseball majeur. Alors même si Yankees dépense 150, 200 millions, une petite équipe, comme le partage est devenu, est capable de survivre. C'était pas le cas à ce moment-là. Alors, il fallait vraiment bien capitaliser l'équipe.
M. Boivin nous disait que même Jacques Ménard ne croyait pas au départ à l'idée d'une garde partagée pour les Rays de Tampa Bay. On l'a convaincu. M. Boivin nous avouait que lui aussi, c'était pas une idée qui générait beaucoup d'enthousiasme chez lui jusqu'avant de se rendre compte que finalement, c'était la façon de ramener le baseball majeur à Montréal. Et dit que certainement, parce que Jacques Ménard était sur le conseil d'administration de Claridge, qu'on aura toujours en tête Jacques Ménard dans la poursuite des démarches pour ramener le baseball à Montréal. Est-ce que c'est un dossier qui vous tient à cœur, même si vous le regardez de loin? Pensez-vous que la formule de garde partagée...
Je le regarde pas si loin. Je le regarde pas si loin que ça, parce que là, je le regarde de loin, mais j'ai aidé Pierre Steven et les autres il y a deux ou trois ans dans tout ça. Ben écoute, comme amateur, garde partagée, tu sais, tu veux t'identifier une équipe, tu dis « Oups! » Émotivement, tu dis « C'est quoi cette affaire-là? » Maintenant, tu as deux, trois façons de regarder ça. Puis c'est vrai que ça fait deux marchés, donc deux fonds, deux bassins pour la publicité canadienne puis américaine. Quand on regarde le Super Bowl, là, hein, quand ils ont fait, il y a deux ans, l'an dernier, c'était un seul bassin de publicité, mais ils ont pas fait. Vous avez vu dans les articles, Bell, qui a fait pas mal moins d'argent parce que les Américains n'ont pas payé plus cher parce qu'il y avait quelques spectateurs au Canada. Là, cette année, ils sont revenus, le Canada, un marché distinct. Puis les publicitaires sont venus en masse. Alors, c'est pas mauvais. Deuxièmement, c'est pas mal de matchs, 80 matchs, 160 matchs, 80 à domicile, c'est beaucoup. Dans des, on se pense grand à Montréal, là, mais c'est pas une immense ville non plus.
Non.
Puis, tu sais, au mois d'avril, mai...
Il y a du rationnel, puis il y a de la logique là-dedans. Il faut régler
l'aspect. C'est pas là.
C'est ça.
Les motifs sont pas là, je suis d'accord avec vous, mais le rationnel, c'est la logique. Mais des fois, une garde partagée... Je fasse attention à ce que je dis, mais comme je suis pas dedans, je peux dire ce que je pense. Mais des fois, une garde partagée, c'est la première étape que le juge vous donne pour un jour vous donner la garde permanente. Ceux qui ont des chicanes familiales comprennent ça.
Ben, vu de même, c'est pas une mauvaise façon de voir les choses. C'est ce que nous en déduisons de l'extérieur en pensant ou en présumant que les acteurs dans le scénario ont ça en tête sans pouvoir l'exprimer à haute voix, là.
Ouais, et puis même si on revient au côté rationnel, là, tu sais, si le baseball veut faire de l'expansion, là, ça serait un transfert. Il y a des villes qui sont pas assez grosses, peut-être, mais qui peuvent. Mais à deux, tu sais, t'avais une équipe à Mexico, puis une équipe quelque part dans l'ouest des États-Unis, etc. C'est peut-être un phénomène d'avenir aussi qui va. Regarde, on verra. On n'est pas encore rendu là. Ça prend du stade au centre-ville, mais ça, c'est clair, c'est que les Mountains travaillent très fort sur ça. Là, ils ont un spot qui n'était pas le spot fabuleux qu'on avait, mais qui est un très bon spot là, dans le Washington, un très bon endroit. Alors, faut que ça suive son œuvre, puis c'est clair que là-bas, à Tampa Bay, ils ont des enjeux juridiques avec leur bail, etc. Alors, il faut qu'ils fassent ça de façon correcte.
Si je peux vous demander, Raymond Bachand, en terminant, au lendemain du décès donc de M. Jacques Ménard, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion...
On n'a pas parlé du Canadien. Parce que moi, j'étais très impliqué. Là. Pierre Boivin va vous en parler, je pense.
L'entrevue. On n'est pas allé trop loin, mais qu'est-ce que vous avez à nous partager là-dessus par rapport à...
C'est parce que Jacques, me semble que tu es en charge avant. Moi, je suis ministre du Développement économique, donc en charge d'Investissement Québec et de la SGF. Puis Jacques m'avait approché de Raymond, ça va-tu m'en prendre une participation de gouvernemental en prêt, le moyen risqué, mais ça va prendre un morceau d'argent. Je pense que ça a été 75 millions. Là. Mon chiffre est peut-être pas bon, ça fait quand même un certain nombre d'années. Puis moi, mon problème, si les gens qui sont un encan, ils peuvent pas favoriser un groupe plutôt qu'un autre. Moi, j'ai dit, OK, c'est parfait, on est là, mais Dieu, si j'ai Jacques Batèche, il faudrait pas que ce soit des Américains qui achètent, là, parce que les Québécois vont nous tuer avec raison. En tout cas, ça a bien fini, parce que, mais c'est vrai que la dernière journée de l'encan, la deuxième ronde, un groupe de Chicago là qui était proche deuxième, disons. Finalement, les Molson sont arrivés, ils ont offert plus. Puis, entre nous, beaucoup plus que n'importe quel groupe québécois qui était intéressé à ça. Alors, ça a bien fini. J'ai accommodé ça de main de maître aussi pour garder le Canadien à Montréal et rapatrier une propriété canadienne aussi.
C'est pas facile, hein? C'est des gros dollars, c'est des gros montants. D'ailleurs, il me le disait quand on a revisité la transaction de l'époque, parce que je lui demandais bien candidement, est-ce qu'on a manqué de vision quand on regarde la valeur des franchises aujourd'hui d'avoir laissé ça aller comme ça, tu sais? Mais il me disait que dans le fond, les actionnaires qu'il avait réunis à l'époque ont jamais vraiment vu ça comme un investissement, mais plus comme un engagement communautaire qui avait permis de garder les expos quelques années de plus, mais qu'on n'avait pas la vision de ça comme un investissement, comme peut-être avec le Canadien. C'est ce qu'il me partageait comme opinion.
Non, mais c'est tout à fait exact, parce que tu es un investisseur dans le baseball, à Montréal à l'époque, c'est clair que tu vas perdre d'argent, tu feras pas beaucoup d'argent, puis donc le 10, 20, 30, 40 millions que tu mettais, puis ceux qui mettaient de l'argent, le faisaient... par sentiment d'appartenance. Il y a même un groupe de Toronto qui était là et qui acceptait de rester là parce que pour eux autres, c'était des fiers Canadiens et c'est important pour eux d'avoir une deuxième équipe au Canada. Mais le seul moment où tu caches, excusez l'expression, quand tu es propriétaire d'une équipe, c'est quand tu la revends.
Exact.
Et pendant que tu l'opères, surtout avec l'économie du baseball à l'époque,
Et les revenus médias qui n'étaient pas comparables à ceux d'ailleurs ici dans un micro-marché, faut le dire... C'était des conditions qui étaient vraiment différentes.
Très loin.
Oui.
Très loin des villes américaines. Même si on est une des 30 plus grandes villes d'Amérique, au niveau revenu média, on ne l'est pas. Mais c'est comme tout. Hein, le coût de la vie à Montréal est moins cher, les loyers sont moins chers, les revenus médias sont moins grands aussi.
On ne peut pas tout avoir, mais oui, il y a des éléments, des indices économiques qui ne font plus mal que d'autres, comme celui des revenus médias compte tenu du marché francophone qui est plus petit que le grand marché anglophone nord-américain. C'est sûr qu'il y avait des contraintes de ce côté-là. En terminant, M. Bachand, je ne sais pas si c'est quand la dernière fois vous avez eu l'occasion d'avoir une conversation avec M. Ménard qui combattait la maladie depuis un certain temps déjà, lui qui est le parrain d'un de vos enfants, si je ne me trompe pas, là.
Moi, Jacques, qui a été opéré, là, il a été greffé des poumons là, cet automne, et je suis allé voir à l'hôpital après. Là. Il était revenu dans sa chambre, ça, je ne dirais pas que ça allait bien, mais il était... Alors, je l'ai vu, ça fait peut-être 2 mois, parce qu'après ça, il est reparti aux soins intensifs, il a fini 2 mois aux soins intensifs, puis il n'a pas réussi à passer à travers. Alors, j'ai fait un FaceTime avec lui aussi à un moment donné, comme à sa femme souvent, mais... Il est pas pour lui, là, à un moment donné, tu sais, son corps a lâché. Il était encore très toute la tête était présente, mais le corps n'a pas suivi. Alors mais ce qu'il faut, à part d'être triste, c'est célébrer la chance qu'on a comme Montréalais, Québécois, Canadiens, que cette personne-là soit passée dans nos vies puis nous ait aidés dans le temps de même.
Ouais, c'est bien dit, M. Bachand. Merci beaucoup de votre témoignage. On en est très touchés. Merci beaucoup de cette conversation et sincères condoléances à vous et toute votre famille, bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée à vous. Raymond Bachand qui était avec nous, un proche de Jacques Ménard.